Alors, j'ai prévenu plusieurs personnes ce soir en arrivant que je me suis trouvé un tout petit peu gascon parce que j'avais fait une promesse que je ne tiendrai pas. Vous savez, quand on choisit le titre d'une conférence, il y a beaucoup de choses qui passent dans la tête et puis on se dit, tiens, ça me plaît. Alors Dieu est-il il ou elle ? Ça me plaisait. Ça me plaisait il y a quelques mois. Et puis, lorsque je me suis mis devant ma feuille blanche, je me suis dit, mais attends, tu déraisonnes, me suis-je dit. Donc, j'ai donné un titre, mais c'est une promesse de gascon. Parce que je me suis dit qu'on ne peut pas traiter comme ça, à la légère, de la question de Dieu, est-il il ou elle ? Ou plutôt, est-il elle ou il ? Parce que la politesse... Fait passer mesdames, les dames avant les messieurs. Et puis cette question, dans le fond, elle est insoluble et elle est extraordinairement complexe. Comment peut-on avoir, on dirait en hébreu, la chutzpah, le culot d'essayer de parler de Dieu avec, en donnant un sens extrêmement compliqué. Parler de Dieu, en quelque sorte, c'est louvoyer entre de multiples écueils, car si elle ou il est ce qu'elle ou il doit être, eh bien, elle ou il est au-delà de tout ce qui existe, de tout ce que je sais et de tout ce que vous savez. Et nous allons y revenir tout à l'heure. Et toute définition de Dieu ou toute qualité que nous lui attribuons nous renvoie toujours à notre incapacité de parler d'elle ou de lui et de saisir sa totalité. Alors, Shabbat dernier, j'ai dit à Eliane Ventre, je vais essayer de traiter de Dieu et de faire un petit peu un panorama sur ce que la tradition juive dit à partir de ses premiers écrits. Et les textes bibliques, d'ailleurs, sont tout à fait exemplaires dans cette confusion que l'on peut entretenir concernant la définition de Dieu, son nom, ses noms. Parce que dès que vous ouvrez la Bible, vous arrivez au chapitre premier de la Genèse, et Dieu est un pluriel qui se conjugue au singulier, sous le nom de Elohim. Elle voulant dire puissance, Elé voulant dire ceux-là, Elohim étant un pluriel. Et on nous parle, dans le premier chapitre, d'un Elohim qui est à l'origine de l'univers dans lequel nous sommes et dans lequel il nous a placés, pour ceux qui croient en son existence, ou dans lequel ils ont émergé par hasard, sans leur volonté, pour ceux qui ne croient pas à son existence. Dieu est absolu, Elohim est un être absolu, qui semble être là avant que l'univers ne soit, mais on ne nous dit rien de plus dans le premier chapitre de la Genèse. Le premier chapitre de la Genèse nous dit donc que l'univers a été créé par cette puissance, sous le nom de Elohim, qu'il a non seulement généré, l'a créé à partir du néant, mais en plus l'a organisé au fur et à mesure de son développement, ou peut-être, en le créant, avait en même temps conçu toutes les lois de la physique, de la chimie, de la génétique, pour que de façon aléatoire, le monde soit ce qu'il est aujourd'hui, ou du moins tel que nous le connaissons aujourd'hui, et qu'il continuera à se développer, et que l'humain continuera également à se développer, et que par des rencontres aléatoires, qui n'est pas la même chose que le hasard, et par des unions aléatoires, le monde sera demain ce qu'il sera, avec toujours c'est cet Elohim qui en est l'origine. Deuxième chapitre et troisième chapitre de la Genèse, l'auteur, que ce soit Moïse ou un autre, sous la dictée divine ou non, n'est plus tellement sûr que la puissance suprême est un être froid, simplement organisateur des choses. Alors, dans le deuxième et le troisième chapitre de la Genèse, il est question de Adonai Elohim. Et dans la tradition juive, Adonai, c'est le nom de Dieu compatissant, le nom de Dieu d'amour. Elohim, c'est le nom de Dieu de justice et de rigueur. Justice et rigueur qui sont nécessaires dans le monde de la physique, de la chimie, de la biologie, enfin en général, parce que ce monde-là répond à des règles, à des lois, mais un Dieu de compassion et un Dieu d'amour, parce que dans la relation qui s'institue entre, d'après le texte, entre Dieu et Ha-Adam, l'humain, comme à la fin du chapitre 2, dans la relation qui s'instaure entre Adam, l'homme, et Chava, Ève, la femme, eh bien, il y a une autre dimension qui apparaît, et qui n'est pas la dimension de la rigueur, mais qui est la dimension de l'amour et de la compassion. Et l'auteur hésite. Et dit Dieu, c'est et compassion et amour, et rigueur, mais dans le fond, je ne sais pas et je n'ai pas décidé encore qui il était ou qui elle était. Et arrive le quatrième chapitre, lorsque Adam et Ève sont sur cette terre, du moins nous pouvons le supposer, lorsqu'ils sont devenus véritablement des humains, des terriens, eh bien ils se rencontrent, ils se connaissent, pour reprendre le terme biblique, et Ève porte vie et donne existence à des petits hommes, à d'autres êtres humains. Et dans ce chapitre, quatrième, tout d'un coup, Elohim disparaît. Reste Adonai, le Dieu de rigueur et de justice, laisse la place au Dieu de compassion et d'amour. Ce cheminement qui nous est indiqué par les quatre premiers chapitres de la Genèse peut être un cheminement que nous, certains d'entre nous, avons côtoyé. Peut-être, parfois nous avons l'impression que Dieu est un Dieu de rigueur, et parfois nous avons l'impression qu'il est un Dieu d'amour et de compassion. Et parfois nous ne savons pas s'il est l'un ou l'une, ou s'il est l'autre. Et dans la suite des textes bibliques, les noms vont se succéder, ils vont donner l'occasion aux biblistes scientifiques de dire « il y a un texte E et il y a un texte J », c'est-à-dire qu'il y a des textes à l'origine de la Torah et de la Bible, il y a des textes éloïstes et des textes yavistes. Mais pour celui qui lit la Torah aujourd'hui et qui se dit c'est quand même un ouvrage qui forme un ensemble, eh bien il va constater que le nom de Dieu va évoluer, change, est une fois l'un et une fois l'autre, et que cela se retrouve dans tous les livres de la Bible. Sauf dans ceux, évidemment, où Dieu n'est pas mentionné, comme par exemple dans le livre d'Esther ou dans le Cantique des Cantiques. Nous savons que sa trace est invisible et pourtant perceptible, et cela nous est donné dès les premiers chapitres, au chapitre 3, verset 8, lorsque Adam, qui a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que lui avait donné sa femme sous l'influence du serpent, lorsqu'il se rend compte, lui et Ève, que Dieu est présent, il arrive, mais il ne le voit pas. Il l'entend venir. Dieu est une inconnue. On va revoir exactement la même situation beaucoup plus tard. Lorsque Jacob, s'éveillant après sa première nuit passée hors du camp familial, il s'écrit, si tout ceci se passe, c'était, il avait fait un pari avec Dieu, en quelque sorte. V'haya Adonai li l'Elohim, alors Adonai sera pour moi Dieu. Enfin, on devrait dire, et Adonai sera pour moi comme Dieu ou pour Dieu. Mais on enlève le comme et le pour, parce que sinon cela complique les choses, du moins en français. Et puis il faut attendre le livre de l'Exode pour rencontrer une question. Qui es-tu? Qui est-elle ou qui est-il? Moïse aimerait bien connaître le nom de Dieu. Cela lui faciliterait en quelque sorte son action vis-à-vis du peuple d'Israël, et il lui demande de le lui communiquer afin de pouvoir être identifié par les Hébreux comme le messager de Dieu. Exode 3, on pourrait peut-être distribuer les feuilles. Hein. Je vous le dis, mais ça, certainement beaucoup d'entre vous le connaissent. Et Moïse dit « Ha Elohim », encore une formule un peu particulière. « Voici, je vais venir vers les enfants d'Israël et vais leur dire, une pour deux, j'en ai pas fait suffisamment, je le regrette. Le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous, et eux, ils me diront, quel est son nom? Que leur dirai-je? » Voici ce que Moïse dit à Dieu. Et Dieu dit à Moïse, « Ehyé Asher Ehyé, je serai que je serai, et non pas qui je serai. » Et il dit, « Ainsi tu parleras aux enfants d'Israël, Ehyé, c'est-à-dire je serai, m'a envoyé vers vous. Je serai. » C'est quand même une formule assez particulière. On peut bien sûr dire que demain, il sera ce qu'il sera. Mais comment donner un nom à ce qui n'est pas encore? Tel est l'un des paradoxes auxquels nous devons faire face en parlant de Dieu. Il est, il a été, il sera, on reviendra plus tard là-dessus, mais la clé que Moïse a en main est une clé d'une extrême fragilité. Je serai que je serai, attendez demain pour voir si j'y suis. Mais attendez demain pour voir qui je suis, ou plutôt préparez-vous à demain pour que je puisse venir, c'est déjà l'engagement qu'il y a un processus qui est en cours. Et que ce processus qui est en cours va les aider, va aider le peuple d'Israël à participer à sa propre libération lorsque peu à peu les signes vont se succéder. Plus tard, l'Exode 33, Moïse revient à cette question. L'Exode 33, il est sur le mont Sinaï, Dieu a énoncé les 10 commandements ou les 10 paroles au préalable, il lui a dit « Monte vers moi, je te donnerai la Torah », et il lui donne toutes les indications concernant la construction du tabernacle, et pendant ce temps-là, juste à la fin, le peuple d'Israël sera en train de préparer la fête autour du veau d'or. Et Dieu le sait. Et il dit « Je vais anéantir ce peuple ». Alors, Moïse plaide en faveur du peuple d'Israël, et à la fin, il lui dit « Fais-moi voir, dis-moi qui tu es ». Et Dieu répond « Tu ne pourras pas voir ma face, car il ne peut pas me voir l'humain et vivre ». C'est pourquoi parler de Dieu, c'est un paradoxe. Comment puis-je parler de quelqu'un que je ne peux pas regarder en face? Alors que vous savez très bien que lorsque vous dialoguer avec quelqu'un, c'est le visage que vous regardez. À moins que vous ne vouliez que ce dialogue soit un faux dialogue et que vous détourniez les yeux. Et Adonai a dit, voici un lieu avec moi, tu te dresseras sur le roc. J'ai pris la traduction, je ne sais pas si vous la connaissez, de Henri Méchonic. Et il y aura au passage de ma gloire, et je te mettrai dans un creux de rocher. Et pour te couvrir, je mettrai ma paume sur toi jusqu'à mon passage. Et je détournerai ma paume et tu verras mon arrière et mon visage ne sera pas vu. Cela semble être en partie contradictoire avec la première théophanie, puisque Dieu dit « Je serai que je serai », donc c'est demain. Et là, il lui dit « Tu verras la conséquence de ma présence ». C'est ce que cela veut dire. Tu verras mon arrière. Tu verras ce qui se passe après moi. Pourquoi être panaï? Ne pas voir ma face? Je l'ai dit tout à l'heure. Le visage est le lieu de la connaissance de l'autre. Mais pour la connaissance de Dieu, il ne peut pas en être ainsi, puisque s'il est ce qu'il est ou si elle est ce qu'elle est, Dieu n'a pas de corporéité. Donc il n'a pas de visage non plus. Donc, si nous ne pouvons pas le voir, nous ne pouvons que, pour reprendre le texte de l'Exode, constater sa présence après coup. Et rappelez-vous également de la première des 10 paroles, « Anochi Adonai Elohecha », pourquoi « Anochi » et pas « Ani » Sinon pour nous dire que la vision que nous avons de Dieu est multiple et dépend du contexte. Il apparaît comme un combattant lors du passage de la mer des joncs et lors du don des 10 paroles, il apparaît comme la source de la révélation. Il apparaît, ou elle apparaît, aussi dans d'autres livres comme source de la compassion, mais aussi comme source de la rigueur. Et les visions de Dieu sont multiples. Dieu de rigueur et Dieu d'amour, Dieu vengeur et Dieu de pardon. En plus, un existant qui apparaît sans apparaître. C'est d'une complexité grande, mais on verra tout à l'heure que, dans le fond, ça ne déroge pas aux règles de notre univers. Et lorsque Dieu se manifeste au prophète Élie dans le livre des Rois, ce dernier ne reconnaît sa présence ni dans le vent intense et violent, en trouvant les monts et les brisant les rochers, ni dans la forte secousse, ni dans le feu, mais dans Kol de Mama Daka, une voix de doux silence. Et aussitôt, dit le texte, Élie se couvrit le visage de son manteau. Question que l'on peut se poser, est-ce qu'un silence peut être doux ? Puisque de toute façon, il n'a pas d'existence. Donc nous sommes à nouveau en plein paradoxe. Et c'est ce paradoxe où l'on dit, il y a sans qu'il y ait, et pourtant, il y a. Ceci sans parler des visions du prophète Ézéchiel et du chariot divin. Mais pour les prophètes, Dieu est une réalité qu'il n'est pas nécessaire de décrire ni de préciser, car pour reprendre les paroles d'Isaïe, à qui identifiez-vous Dieu et quelle image lui attribuez-vous? Et puis rappelons-nous le texte de Job, à la fin, au chapitre 38, lorsque Dieu intervient, il dit « Où étais-tu lorsque je fondais la terre? Dis-le si tu en as connaissance. Qui a fixé ses dimensions? Si tu le sais. Ou qui a tendu sur elle le cordeau? Sur quoi sont assis ses piliers? Ou qui a lancé sa pierre angulaire tandis que les étoiles du matin chantaient en chœur et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? » Il y a des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Bien sûr, on nous dit que notre Terre est dans un système solaire, qui est dans un système stellaire, qui lui est dans l'univers, mais dans quoi il est dans l'univers? Dans quoi est-il suspendu ou sur quoi repose-t-il? Question. Et comment voulez-vous parler d'un existant, en plus, dont le nom est imprononçable? Si on prend le tétragramme, qui selon Maïmonide indique expressément l'essence de Dieu et avec lequel il n'y a pas d'homonymie, on est devant un véritable problème. Je peux me servir du tableau? Je vais en profiter. Ah ben le micro ne me suivra pas, tant pis. Il me suivra le micro? Ah bon, alors il me suit. Vous connaissez le tétragramme? Vous le connaissez parce que vous le voyez souvent. C'est assez grand pour derrière 4 lettres. En plus, quatre lettres qui sont très curieuses, parce que ce sont des lettres qu'on appelle des lettres quiescentes, c'est-à-dire qui apparaissent ou qui disparaissent. Le yod, parfois, ne se prononce pas, et quelquefois, il se prononce yeux. Le hé, parfois, est une expiration un peu forte, et parfois, est totalement silencieux. Le vav, qui est très certainement à l'origine un we, parfois disparaît complètement, pour laisser la place à la voyelle o ou ou. Donc ce sont des lettres qui apparaissent ou qui disparaissent. Et avec ces lettres qui apparaissent ou qui disparaissent, on écrit le nom de Dieu. Mais ce nom de Dieu est une curiosité. Le verbe être, et on va dire que Dieu c'est il, parce que ça simplifie les choses. Le verbe être au passé, troisième personne du masculin singulier, c'est haya. Le verbe être au présent, c'est un participe. C'est hové. Et le verbe être à la troisième personne du masculin singulier au futur, c'est yihye. A été, est, sera. Alors je vais faire une addition un peu à l'envers. Une fausse addition, j'appelle ça le compactage. On compacte tout ceci. Là, j'ai que cette possibilité-là. J'en ai pas d'autre. Ici, j'ai celle-là. Ici, si je remets celle-ci, ben je vais avoir cette forme au futur. Et puis ici, j'ai celle-là. Et vous avez le tétragramme. Le tétragramme, en quelque sorte, est le compactage du verbe être à la troisième personne du masculin singulier au passé, au présent et au futur. C'est génial. En plus, avec des lettres qui quelquefois disparaissent. Alors on dit, c'est le Shem Ha-Meforash, c'est le nom évident, clair. Évidemment, il est clair. Parce que qu'est-ce qu'il exprime ? Ben, il exprime non pas l'éternité de Dieu, mais l'intemporalité de Dieu. Il est intemporel. Parce que l'éternel, on dit quelquefois qu'il y a des choses... L'amour est éternel. Il a quand même un moment de commencement. Eh bien, Dieu, dans son nom même, on a son intemporalité. Et en même temps, on va le prononcer, ce mot. Il était prononcé par le grand prêtre de Jérusalem uniquement à Kippour. Et puis, on dit que certains, les Lévites, faisaient un peu de bruit pour que personne ne l'entende. Mais on n'a aucune preuve, hein. Mais bon, on peut le croire. Il était uniquement prononcé par le grand prêtre. Et il était connu par deux personnes, le grand prêtre et celui qui pouvait, le vice-grand prêtre, le Sgan Kohen Gadol. Comme ça, quand l'un décédait, on en nommait un deuxième pour qu'on soit sûr que le nom, que la prononciation du nom se transmette au fur et à mesure. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'une personne sache prononcer ce nom, et depuis le début, on le prononce Adonai, ce qui veut dire mes maîtres. Même problème, c'est un pluriel. Mais c'est intéressant de voir que ce nom-là, qui est le nom Hamforash, c'est-à-dire le nom qui donne la réalité divine, eh bien, on devrait le traduire, non pas par Dieu, mais l'existant, en quelque sorte. Voici son nom, qui est donc composé de lettres qui disparaissent. Ah, ça s'est arrêté ? Non. Ah, j'ai fait tomber quelque chose. Ça, il faudra le couper. Hein. Mais comme le précise le Talmud, je ne me prononce pas comme je m'écris, mais je me prononce Aleph Dalet Nun Yud, c'est-à-dire Adonai. Donc Dieu contredit lui-même ce qu'il est. Et on est toujours dans cette espèce de jeu où on dit les choses clairement, et puis quand on y réfléchit, on se dit, mais je ne comprends pas. Je dis le contraire de ce que je... Le vocabulaire que j'utilise est le contraire de la réalité. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le nom divin peut être interprété comme un causatif et signifier « il cause l'existence des autres » ou « il fait exister ». Et à l'époque talmudique, comme on ne sait toujours pas prononcer ce nom, ce tétragramme, alors on va avoir de nombreux noms qui vont servir à désigner Dieu, chacun exprimant une qualité. La puissance, Hagvura, la compassion, Rachamana, la sainteté, ou le Saint béni soit-il, Hakadosh Baruch Hu, le maître de l'univers, Ribono Shel Olam, celui qui a parlé et le monde fut, Mishe Amar V'haya Aolam, le Père qui est aux cieux, Avinu Shebashamayim, le lieu de tout, Hamakom. Mais il faut savoir que s'il est la place de tout l'univers, l'univers n'est pas sa place, dit le Talmud. Et puis d'autres noms encore. Et les rabbins à cette époque, donc, vont donner une multitude de noms et même de qualités. Ils vont comparer Dieu à un capitaine d'un navire, au propriétaire d'un bâtiment, à un concepteur. Et parfois, ils vont le décrire comme étant vêtu d'un talit et des tfilines, apprenant au peuple d'Israël comment il faut prier. Ce qui fait dire après que de la même façon dont il est, lui, compatissant, soyez vous-même compatissant. Et puis, les rabbins vont estimer que la Torah étant considérée comme étant le fruit de son verbe, eh bien, chaque lettre de la Torah compose le nom de Dieu. Donc c'est un nom, en quelque sorte, à l'infini. Et puis voilà, à l'époque du Talmud, Dieu, en quelque sorte, c'est un compagnon. Celui qui est à mes côtés, qui quelquefois me réprimande, qui quelquefois me prend la main, et qui a une multitude de noms, parce que ces noms, en fait, décrivent la façon dont on le perçoit. À la fin de l'époque talmudique, bien plus tard que la fin de l'époque talmudique, les Juifs vivent dans un environnement particulier, l'environnement de l'islam, qui a redécouvert la philosophie grecque. Alors il va y avoir les premiers théologiens juifs. Et l'un d'entre eux, dont on a lu un extrait, c'est Maïmonide. Et d'ailleurs, vous avez l'extrait au milieu de la page 9, où il est dit « Le principe des principes et le pilier des sciences, c'est de connaître qu'il y a un être premier et que c'est lui qui impartit l'existence à tout ce qui existe. En effet, dit-il, toutes les créatures du ciel, de la terre et de l'espace qui est entre eux ne tirent leur être que de la vérité de son être à lui. » Je vous fais remarquer que le nom de Dieu n'apparaît pas dans ce texte. Maïmonide est extrêmement prudent, c'est dans le livre de la connaissance, il est extrêmement prudent. Pour lui, il y a une rationalité à la chose. Rationnellement, Dieu doit exister puisque nous existons, mais il lui est impossible de lui donner un nom. Il aurait pu commencer par « Le principe des principes et le pilier des sciences est de connaître qu'il y a Adonai. » Il s'en est bien gardé. Parce que pour lui, en quelque sorte, le nom est l'expression d'une qualité, mais pas l'expression de l'idée dans son ensemble. Et il ajoute au paragraphe 2 que si tu admets en ta pensée que cet être premier n'existe pas, aucune autre chose ne pourra exister, j'existe donc il est. C'est un petit peu différent de ce que Descartes disait. Je pense donc je suis, Maïmonide dit j'existe donc il est. Mais cet être est dissemblable de tous les existants, et tous les qualificatifs qui lui sont attribués, dit Maïmonide toujours dans le chapitre 1 au paragraphe 12, ne doivent s'entendre que comme autant de métaphores ou de similitudes. Alors après, je vous propose un texte un tout petit peu plus compliqué, mais c'est celui il est extrait du Guide des Égarés. C'est le texte 1.60. Je vais le lire lentement. Parce que quelquefois, ça se bouscule un peu. C'est ainsi que les attributs négatifs te rapprochent de la connaissance de Dieu et de sa perception.
je ne peux pas dire en quelque sorte que Dieu est bon. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est bon? Je ne peux dire que ceci, de point ouvrir les guillemets, Dieu est bon, mais d'une bonté différente de celle de l'humain. C'est ce qu'il appelle les attributs négatifs. Quant aux attributs de Dieu exprimés par des affirmations, Dieu est grand, généreux, bon, etc., ils renferment un grand danger, car on a déjà démontré que tout ce que nous pourrions prendre pour une perfection, quand bien même que cette perfection existerait en Dieu conformément à l'opinion de ceux qui admettent les attributs, nous pourrions prendre pour une perfection ne serait pas de la même espèce de perfection que nous imaginerions, mais serait seulement appelée ainsi par homonymie. Cela te ferait nécessairement aboutir à une idée négative, car en disant qu'il sait d'une science unique, que par cette science invariable et non multiple, il sait les choses multiples et variables qui se renouvellent sans cesse, sans qu'il lui survienne une nouvelle science, et que c'est d'une science invariable qu'il sait la chose avant qu'elle naisse, après être arrivée à l'existence et après avoir cessé d'exister. Il faudra se souvenir de cela, parce que dans le fond, il y a aussi une question, on y reviendra tout à l'heure peut-être brièvement, pour certains philosophes ou penseurs juifs aujourd'hui, ils disent si Dieu est la mémoire de tout, eh bien sa mémoire augmente au fur et à mesure du temps, ne serait-ce qu'en portant mémoire de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Donc on pourrait croire que Dieu évolue. Maïmonide déjà avait répondu à cette question. Il sait les choses multiples et variables qui se renouvellent sans cesse, avant même qu'elles n'aient commencé, pendant qu'elles existent et même quand elles ont disparu. Tu déclares qu'il sait d'une science qui n'est pas comme la nôtre. Et de même aussi, il faut attacher à son existence une autre idée que la nôtre. Tu produis donc nécessairement des négations, et loin de parvenir à constater un attribut essentiel de façon positive, tu arrives à établir la multiplicité et à admettre que Dieu est une essence ayant des attributs inconnus, car ceux que tu prétends lui prêter affirmativement, tu refuses toi-même de les assimiler aux attributs connus chez nous, et par conséquent, ils ne sont pas de la même espèce. C'est-à-dire que lorsque nous disons quelque chose de Dieu, nous utilisons des termes humains, bien entendu, mais que ces termes humains se rapportent à ce que notre connaissance possède, mais que lui est au-delà de cela, et donc, en définitive, que nous ne pouvons pas dire grand-chose parce que nous ne savons pas. Ainsi donc, dit-il, ce qu'il faut croire à l'égard des attributs qu'on rencontre dans la Torah et dans les prophètes, c'est que tous, ils n'ont pour but autre chose si ce n'est de nous amener à reconnaître la perfection de Dieu, ou bien qu'ils désignent des actions émanant de lui, comme nous l'avons exposé. Nous voilà bien avancés avec ce texte de Maïmonide. Mais il nous fait toucher du doigt une vérité pour ceux qui croient en elle ou en lui, c'est que tout ce que nous allons dire n'est qu'approximation et qu'il faudrait prendre des mesures telles qui compliqueraient les choses si nous disions, attention, je vais parler de la bonté de Dieu, mais ne vous imaginez pas que sa bonté est comme la bonté. On tourne en rond, en quelque sorte. Mais si s'il n'y avait que cela comme complication, ce ne serait pas grave. Vient la période de la spiritualité poussée à l'une de ses extrêmes, la Kabbale. Chaque nom de Dieu, disent les kabbalistes, exprime des qualités de Dieu. Mais là encore, les pistes sont brouillées, car Dieu est en même temps le Ein Sof, l'illimité, et en même temps le Aïn, le vide, le rien. Et voici ce que dit Moïse de Léon, donc l'un des auteurs Isaac Luria, excusez-moi. Il faut réaliser, réfléchir. Vous avez le texte à la page 10, hein, je crois. Oui. Et disposer l'esprit et la pensée au fait que lui, béni soit son nom, est l'annihilation de toutes les pensées et qu'aucune idée ne le contient. Or donc, puisque nul, c'est-à-dire Aïn, ne l'appréhende de quelque façon, il est appelé néant. Aïn. Tout ce qui est indéfinissable et inaccessible, dont nul ne sait rien, est appelé néant, à savoir, personne ne sait rien à propos de cette chose, et dans le fond, nous ne savons rien à propos de lui ou d'elle. Et d'autres sont tout aussi complexes, ainsi le Gaon de Vilna, dans son appendice à son commentaire sur le Sefer Ditzniyuta, affirme « Sache qu'il ne faut absolument pas spéculer sur l'infini, béni soit-il, donc là on a l'infini alors qu'on avait le Haïn avant, car il est interdit de lui attribuer ne serait-ce qu'une existence nécessaire. » C'est ce que Maïmonide avait dit tout à l'heure, hein. Son existence est nécessaire parce que j'existe. Mais en fait, elle n'est pas nécessaire. Parce que si j'existe, c'est parce qu'il m'a fait exister, mais mon existence ne détermine pas la sienne. Et l'on sait, continue le Gaon de Vilna, que de la même façon qu'il est sans limite, ainsi est sa volonté, et c'est cela l'infini de sa volonté pure. Et même à cet égard, il est interdit de spéculer de quelque manière. L'on sait seulement que les mondes sont finis et nombrables. Point. On est passé du néant à l'infini pour désigner le même être et être encore plus dans la confusion. Bien plus tard, avec la philosophie allemande, on trouve Nachman Krochmal qui affirme que Dieu est un esprit absolu contenant en lui toutes les réalités. Mais comment l'appeler ? Toujours au XIXe siècle, pour Hermann Cohen, Dieu dont la nature est une inconnue absolue pour nous et dont l'existence ne peut être prouvée, et j'ajouterai, et dont l'inexistence non plus ne peut être prouvée, Dieu est nécessaire pour affirmer le principe fondamental de l'éthique. Mais ça, c'était la philosophie du XIXe siècle. Vient au XXe siècle Rosenzweig, pour qui la connaissance de Dieu n'est pas le fruit de la connaissance spéculative, mais est perçue dans une rencontre existentielle directe qui est assimilée à une révélation, et c'est ce que Buber va appeler le « je » et le « tu ». Buber qui développe l'idée de la rencontre entre le « je » et le « tu » en disant « Les hommes s'adressent à l'éternel « tu », donc à Dieu, à travers de nombreux noms. Mais tous les noms de Dieu sont saints, car à travers eux, il n'est pas évoqué uniquement, mais également, on peut s'adresser à lui. L'avantage d'avoir des noms, ce n'est non pas connaître Dieu, mais pouvoir en quelque sorte s'adresser à lui. C'est ce que Buber dit. Et pour Mordechai Kaplan, qui est le fondateur du judaïsme reconstructionniste, il est la puissance qui est la source de la rédemption et de l'accomplissement de tous les idéaux valides. On retrouve un petit peu Hermann Cohen de tout à l'heure. Un professeur de théologie, je crois qu'il a pris sa retraite il y a 2 ans, il était au Jewish Theological Seminary, Neil Gilman, affirme « Les caractères que nous attribuons à Dieu sont des métaphores empruntées à l'expérience humaine. » Il reprend en quelque sorte la problématique de Maïmonide. « Et, comme Dieu précisément transcende toute conceptualisation humaine, nous ne pouvons penser Dieu qu'à travers des métaphores. » Et quand on pense à quelque chose ou à quelqu'un en utilisant des métaphores, c'est que nous ne savons pas comment parler de cette personne. Et il poursuit en disant « Nous devons accepter l'affirmation méthodologique que nulle créature humaine ne peut avoir une vision objective et totalement valide de Dieu. » Et on peut citer comme exemple l'un des livres d'un autre théologien du XXe siècle, Eugène Borowitz. Lui, il était Hebrew Union College, dont le titre est significatif, « Echad », c'est-à-dire « un », les différentes significations de Dieu, « Dieu est un ». Et il a écrit un livre, il a fait écrire des textes par plusieurs penseurs juifs sur cette question, qui semble être, dans le fond, les différentes significations de Dieu est un, ce qui semble être un oxymore, c'est-à-dire une affirmation en apparence contradictoire, le un pouvant avoir plusieurs significations, alors qu'il est un et indivisible. Il y a encore d'autres expressions au sujet de Dieu, dont celle de Arthur Green, ça c'est un tout petit peu kabbalistique, que je vous livre ici. Son nom, le tétragramme, est à la fois un verbe, aux trois temps, comme je viens de le montrer, et un nom. Un verbe qui devient nom et un nom qui devient verbe, c'est aussi une particularité. De plus, comme il le dit, il est formé des lettres quiescentes, reflet de son existence qui apparaît, sous forme quiescente, visible et invisible à la fois. Comme Yod-He-Vav-He est un nom propre, mais aussi une abstraction, il permet une relation et en même temps institue une autonomie par rapport à l'humain. Et il ajoute, puisque Dieu est la mémoire de tout, il évolue, ou plutôt semble, à notre vue, évoluer. Le témoignage que Dieu est un requiert la présence d'un autre. Or, à côté de Dieu, il ne peut avoir d'autre que Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est retiré de son propre vouloir afin d'être perçu, pour nous permettre d'exister comme l'autre face à Dieu, afin que nous percevions son existence et en portions témoignage. Et il se base sur les textes qui s'appelle Sfat Emet. Vous savez, il y a des juifs très traditionnalistes et chassidiques en Israël qui s'habillent toujours avec des bas blancs, pantalons noirs, redingotes et bas blancs. Ce sont les juifs du Guerre Rebbe, le rabbin de guerre, c'est lui. Et il dit, le monde est le véhicule grâce auquel l'être divin caché peut être appréhendé. Et ça, je trouve que c'est une belle définition. Mais nous ne sommes pas à un oxymore près lorsque nous parlons de Dieu. Rappelons-nous son nom improvisé, c'est-à-dire celui qui est le sien de tout temps, celui qui est le résultat du compactage du verbe être à la troisième personne du masculin singulier, au passé, au présent et au futur, ce nom qui indique que Dieu est intemporel. Tout ceci nous semble totalement incompréhensible, pour nous, humains. Mais il faut se méfier de ce qui nous est incompréhensible, ou plutôt de ce que nous percevons, car si nous changeons d'échelle, tout devient possible. On va quitter Dieu un moment. Connaissez-vous l'équation de Schrödinger? Le chat de Schrödinger, qui est l'équation fondamentale de toute la physique quantique. Elle affirme le principe de superposition. Si A et B sont deux états possibles d'un système physique, A plus B, les deux, est également un état possible du système. Pour nous, incompréhensible également. En 1935, Erwin Schrödinger publie un article décrivant une expérience imaginaire. Vous la connaissez ? Un petit peu. Un chat est enfermé dans une boîte avec une fiole de poison, un atome d'uranium radioactif et un détecteur. Si l'atome se désintègre, il éjectera un électron, qui sera repéré par le détecteur, lequel déclenchera le mouvement d'un marteau, brisant la fiole de poison, tuant par conséquent le chat. Problème, tout ceci est dans une boîte, donc on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Le détecteur est conçu pour ne fonctionner qu'une minute, durée pendant laquelle l'atome a 50% de probabilité de se désintégrer, ou non. Sinon, rien ne se passera. Dans ce système complet, boîte plus chat plus marteau plus fiole, il y a superposition de l'état atome désintégré, marteau baissé, fiole cassée, chat mort, ou de l'état atome non désintégré, marteau levé, fiole intacte et chat vivant. Tant que la boîte est fermée, nous pouvons affirmer que le chat serait donc dans un état incertain, ni vivant ni mort, ou vivant et mort, à la fois. À travers cette expérience purement mentale, le physicien autrichien Erwin Schrödinger met donc en évidence les paradoxes du courant de pensée en mécanique quantique de l'école de Copenhague, selon laquelle on ne peut mesurer que ce qui est observable. Dieu l'est-il ? Non. Vous me direz que cela est du domaine de la pensée, mais que dans la réalité, il n'en va pas de même ? Pas sûr. En 2008, le physicien Serge Haroche, qui a eu le prix Nobel, je crois, l'année dernière, a réussi à observer le passage d'un photon d'un état dit de superposition, propre au monde quantique, à un état classique, conforme à ce qui se passe à notre échelle macroscopique. L'expérience qu'il mena confirma, je n'ai pas ça trouvé ça dans le Talmud, hein. L'expérience qu'il mena confirma qu'il n'en va pas dans le monde de l'infiniment petit comme dans le nôtre, où un même objet dans l'infiniment petit, dans le nôtre, où un même objet ne peut pas avoir à la fois, pour une même caractéristique, telle ou telle valeur. Être à la fois à tel ou tel endroit. Mais les particules le peuvent. Envoyez un faisceau d'électrons et de photons sur un mur percé de deux fentes parallèles et vous constaterez, dit-il, que certains d'entre eux seront passés à la fois par la fente de gauche et à la fois par la fente de droite. C'est-à-dire que dans l'infiniment petit, il se passe des choses qui sont totalement contraires à ce que nous connaissons être dans la réalité. Et nous sommes pas totalement inconscients de multiples événements. Dernièrement, j'ai lu un article sur les neutrinos. Peut-être certains d'entre vous l'avez lu. Ce sont des particules à haute énergie qui proviendraient des sources situées hors de notre système solaire. Eh bien, savez-vous que depuis que nous sommes réunis dans cette salle, chaque seconde, chacun de nous a été bombardé par 40 millions de milliards de neutrinos. Avez-vous ressenti quelque chose? Non, moi non plus. Quant au boson de Higgs, alors là, qui donne de la masse à tout ce qui est matière et que certains ont appelé la particule de Dieu, dans nos tablettes, il disparaît aussitôt qu'il est perçu à travers certaines expériences. En quelque sorte, il est là sans être là, et s'il n'était pas là, nous ne le serions pas non plus. Je ne veux pas dire que Dieu est un boson. Mais je veux simplement dire que quelquefois, on se gausse des croyants en disant « décrivez-le-moi ». Alors on devrait leur dire « décrivez-moi le boson de Higgs ». Ou « décrivez-moi, avez-vous ressenti les milliers, les combien que j'ai dit tout à l'heure, les 40 millions de milliards de neutrinos qui sont passés à travers votre corps ?» Notre connaissance est plus que limitée. Et dans certains domaines, il y a des phénomènes qui sont totalement contraires à ce qui se passe dans notre réalité à nous, qui nous permet à nous de penser les choses. Et puis, on peut, sans aller dans l'infiniment petit, les bosons, les neutrinos, etc., nous pouvons simplement nous focaliser sur nous-mêmes. Sommes-nous une chose, une et unique ? Nous sommes beaucoup plus complexes. Mais il est évident qu'à un moment T, dans un lieu donné, nous ne pouvons être qu'une seule chose. Mais pourtant, nous sommes dans un moment T plus 1 et dans un lieu différent, nous sommes différents de ce que nous étions précédemment. Bien sûr, certains peuvent nous décrire, mais nous avons une multitude de facettes. Et nous voudrions, nous, enfermer Dieu sous un seul attribut, quel gageur. Dieu est elle, ou est-il? Ou est-il il? Eh bien, après vous avoir dit tout ce que je vous ai dit, qui est d'une extrême complexité et qui contredit ce que j'ai dit 5 minutes avant, cette question n'a pas de sens. C'est pour ça que je me suis trouvé devant un dilemme lorsque j'ai revu le titre que j'avais proposé. Si dans le monde de l'infiniment petit, l'état de superposition peut avoir lieu, ça c'est le chat de Schrödinger, si nous sommes d'une complexité infinie et évolutive, alors peut-être il en va de même pour Dieu. Mais il est clair que lorsque nous parlons d'elle ou de lui, nous utilisons des vocables qui sont les nôtres, et si nous pouvons attribuer à l'être intemporel et infini une qualité, celle-ci, au singulier comme au pluriel, n'épuise pas son être. Chacun à ce sujet ne peut exprimer que sa croyance en un lieu donné et en un instant donné, mais ce qu'il exprime n'épuise en rien ce que Yod-He-Vav-He est, car en elle ou en lui, tous les états se combinent en une seule unité fondamentale qui, à nos yeux, apparaît comme la somme de multiples qualités et états, mais qui, en elle ou lui, est la réalité de son unité indivisible et unique. La question si Dieu est il ou elle, donc, n'a pas de sens. Je ne peux donc dire ni qu'il est il, ni qu'elle est elle, mais juste que c'est l'être qui nous apparaît avec des qualités diverses, mais qui est un et unique, comme l'affirme le Deutéronome Adonai Echad, avec une césure entre les deux mots, pour bien insister qu'il s'agit d'une qualité, mais que celle-ci n'épuise pas l'expression de son être. La science essaye de comprendre et d'expliquer la réalité, alors que la croyance, pour reprendre la comparaison que fait Arthur Green, est de l'ordre de la poésie. Soyons donc des poètes et prenons une certaine distance pour nous rendre aptes à là où le rencontrer. Je vous remercie.
Merci infiniment, Rabbi François. C'est encore plus dur que d'habitude, parce que j'arrive encore de temps en temps, avec certains conférenciers, à trouver quelque chose à exprimer. Ce que je voudrais peut-être dire, c'est que finalement, vous avez quand même vraiment parlé du sujet, sans arrêt, parce que vous aviez même dit, est-il il ou elle ou où ? Ben, je trouve que vous avez absolument rempli votre contrat. Parce que j'ai senti la salle au début un petit peu froide en disant, mais on est venu pour ce titre. Parce que oui, c'était vous qui aviez trouvé ce titre et je le trouvais et nous le trouvions extraordinaire. Et voilà. Mais voilà. Vous avez dit beaucoup d'informations que vous avez pu nous donner, un titre où on est capable de les recevoir. Peut-être encore une chose. Finalement, on ne cessera jamais de se poser les questions sur le mystère de Dieu. Et peut-être que c'est cela qu'il ou elle a souhaité, que nous finissions jamais de se poser la question, parce que c'est infini. Et regardez ce soir. Alors, qui a des questions à poser à ce propos ? Qui veut réagir ? Qui veut rebondir ? Enfin, avec plaisir, monsieur.
Oui, je voudrais quand même faire remarquer que Dieu... Oui, près de la bouche, pardon. Dieu, c'est d'abord un nom que vous avez écrit au tableau, le tétragramme, et il ou elle sont des pronoms personnels. Eh bien, le nom qui est écrit au tableau, il est évidemment masculin, il est il. Il est conjugué au masculin, ce qui n'implique pas tout à fait un genre sexué, mais... au moins un genre grammatical. Voilà, ça c'est une remarque. Et si je peux me permettre, je voudrais poser une question, parce que je ne suis pas sûr d'avoir le micro plus tard. Parce que je suis hébraïsant, un petit peu débutant, et je ne mets pas le vav, parce que vous avez parlé de toutes ces lettres, de toutes les lettres qui essentent du nom du tétragramme. Moi, dans mon apprentissage, je n'appelle pas qui est sans le vav, parce que quand il est écrit, à ma connaissance toujours, il est toujours prononcé. Alors je me trompe peut-être là-dessus, excusez-moi. Ceci dit, il peut être supprimé.
Non, non, il est écrit, par exemple, dans le mot Torah, il porte le O, il porte le point. Mais il est là, il a disparu dans la prononciation, il est resté O. Donc c'est une des lettres, les quatre lettres qui essentent, ce sont les quatre que vous avez, les trois que vous avez, pardon. Ah oui, mais c'est une lettre. C'est-à-dire que lorsque l'on enlève les points et les traits, cette lettre, elle reste. Elle nous est nécessaire à la lecture. Et donc, elle est là pour nous dire que, attention, il y a une lecture, là, il y a une voyelle, je ne suis qu'un support, alors que dans Vaïdaber, on l'entend.
Là, on est dans le côté bien pratique, bien.
Ce n'est pas tant une question qu'une réflexion. Je voulais vous remercier d'avoir, en fin de votre présentation, associé la poésie et la physique quantique. Parce que, pour avoir un peu étudié ces choses-là, je me suis rendu compte que la poésie n'est qu'un métalangage, c'est-à-dire que lorsque le langage ne peut plus exprimer les choses, on utilise la poésie, qui, elle, est de l'autre ordre. Et de la même manière, les physiciens quantiques, lorsqu'ils arrivent dans leur domaine de l'incertitude, bien souvent utilisent la poésie comme une métaphysique. Et je pense qu'on est là, dans le domaine de Dieu, tout à fait, de l'ordre du méta-quelque chose.
Alors, comme ce n'était pas une question, je suis tout à fait... Je partage totalement ce... Je crois qu'effectivement, regardez, l'un des plus grands poètes juifs, c'était, d'après la tradition, c'est le roi David. Or, les psaumes ne sont autre chose que des poèmes. Et il est tout à fait frappant de voir que, dans le fond, ces textes expriment peut-être beaucoup plus la perception, ou disons ce qu'on appelle la spiritualité, que d'autres textes bibliques qui sont beaucoup plus réalistes, terre à terre. Et effectivement, la poésie est une sublimation en quelque sorte du langage pour transmettre des idées ou des sentiments ou un esprit que l'on ne pourrait pas faire passer autrement que par ce langage-là, qui en fait est un langage qui ne décrit pas la réalité, mais qui la grandifie et qui la dépasse. Juste pour revenir à la remarque précédente sur, effectivement, c'est un nom masculin. Yod-He-Vav-He. Il est évident que si c'était féminin, le Haya serait Haïta, Hové s'écrirait de la même façon sans les voyelles, et Yiyé serait Yiyé. Donc c'est évident. Mais au-delà de cette évidence, je crois que ce qui est le plus important dans ce nom, c'est l'ensemble de ce verbe être, en tout cas la troisième personne, oublions le masculin, dans ces trois formes de temps, décrivant parfaitement l'intemporalité de Dieu. Je crois que de ce côté-là, ce nom, enfin ce tétragramme, qui est un nom et qui est un verbe en même temps, est quand même ce qu'il y a de plus extraordinaire pour transmettre une idée qui nous dépasse totalement.
Je ne vais pas vous redire merci beaucoup. C'était dit et...
Mais vous pouvez, ça fait rien, ça fait plaisir.
Mais je vais vous le dire d'une certaine manière. Je vais vous dire pourquoi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Je vais vous dire en particulier ce que j'ai beaucoup aimé. D'abord, déjà, en commençant, vous nous avez fait saliver, parce que vous avez parlé de Gascon, et vous avez donné envie, en rentrant, de goûter un vieil Armagnac. Donc déjà, c'est...
Oui, mais je vous signale que Eliane a dit que j'avais parfaitement rempli mon contrat.
C'est-à-dire que vous aurez goûté l'Armagnac en rentrant. Pour ce qui concerne la poésie, effectivement, ça a été dit, et ça me rappelle ce qu'a dit Jean-Pierre Denis, rédacteur en chef de La Vie, disait « La foi, la prière et la poésie permettent d'ouvrir une fenêtre sur l'invisible ». C'est un peu ce que vous avez dit, donc j'ai beaucoup aimé. Mais j'aime bien à chaque fois votre, et alors ça a été particulièrement vrai ce soir, votre art de conjuguer le mot et l'image. La manière dont vous avez démontré de façon tout à fait lumineuse et graphique le tétragramme, alors ça c'est vraiment remarquable. Et puis des invitations, par exemple, vous avez dit l'avantage, j'avais pas entendu ça, l'avantage d'avoir des noms pour Dieu, c'est de pouvoir s'adresser à lui en toutes circonstances et quel que soit notre manière de percevoir. Ben ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Une multitude de noms pour Dieu, car chacun, car chaque nom décrit une manière dont Dieu est perçu. Et on retrouve bien votre personnalité là, parce que ce que j'aime beaucoup chez vous, c'est que vous ne cherchez jamais à asséner, à imposer. Il y a toujours chez vous un profond respect de l'autre. Vous dites fréquemment que ce soit ceci ou cela, que vous croyez ou que vous ne croyez pas, que vous croyez de telle manière ou de telle autre manière, et ça change tellement de certains discours totalitaires. Et puis, il y a une autre invitation. Alors ça tombe bien, on nous a distribué ça ce soir. C'est un très beau flyer, comme on dit maintenant.
J'ai vu qu'il y avait une confiture.
Et dans ce que vous nous avez dit, je vais faire un rapprochement paradoxal avec ce flyer. Parce que donc il y a des bocaux de confiture, il y a des étiquettes. Et en fait, moi j'ai entendu dans ce que vous nous avez dit, vous nous avez recommandé de ne jamais mettre ce que nous pensons connaître de Dieu dans un bocal avec une étiquette, enfermé donc dans un bocal, dans un concept synthétisé sur une étiquette. C'est comme ça que j'ai fait le rapprochement. Et la confiture la plus savoureuse, je me demande si ce ne serait pas la confiture de néant.
Faites attention parce que le néant est très proche du Ein Sof.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est bien pour ça. Mais là, on retrouve encore les deux pôles, disons. Et puis, j'ai bien aimé aussi, je ne connaissais pas, pourtant, je connais le Sfat Emet, Rabbi de Gour, avec Catherine Chalier, mais ça m'avait échappé, je ne me souviens plus. Le monde est le véhicule grâce auquel l'être divin est caché, peut-être appréhender. Et là, je vois encore une invitation à être de plus en plus attentif au monde pour pouvoir espérer appréhender quelques particules divines. Voilà, merci infiniment.
Alors je voudrais dans le premier temps répondre à Norbert, quand il parlait du pot de confiture. Il ne faut pas oublier que pour fermer le pot de confiture, il faut faire le vide. Alors mis à part ça, donc je voulais dire un petit mot d'un topo qui avait été fait par Marc-Alain Guacnin il y a quelques années, à propos justement de la croyance en Dieu. Et il avait trouvé une analogie entre le mot « elle » et le mot « oulai », qui ont les mêmes radicaux. et qui, ou là, ça veut dire en français peut-être. Donc, ça peut un peu résumer la question, enfin la réponse à la question du il ou elle ou autre. Alors, enfin, moi, je voulais faire aussi un petit plaidoyer en faveur de la féminité de Dieu, déjà par le fait que elle en hébreu, et on a elle, E2LE en français. Deuxièmement, il y a un côté féminin en Dieu dans la mesure où il est caché, comme souvent la femme est cachée, ses organes sont cachés, elle est à la maison, elle est un petit peu enfermée. C'est clair. C'est clair. Enfin, disons que c'est la symbolique de la femme est plutôt quelque chose de caché, et c'est aussi le côté accueil. La femme accueille l'homme, et comme Dieu accueille notre prière. Et enfin, le troisième élément qui est en faveur de ce côté féminin, c'est que la femme crée, si on peut dire, bien sûr avec l'aide de Dieu, des êtres humains, et Dieu est quand même l'auteur de la création.
Alors, quant à la dernière assertion que vous avez énoncée, c'est exactement ce qui se passe d'ailleurs dans les premiers versets du chapitre 4 de la Genèse, où lorsque Ève porte en elle une vie autre qu'elle, elle reconnaît la dimension de compassion et d'amour de Dieu. Et c'est à ce moment-là que cela apparaît. Et c'est pour ça que je trouve que cette migration, en quelque sorte, du nom dans les premiers chapitres de la Genèse est pour nous une indication, en quelque sorte, d'une réflexion. On peut partir d'une réflexion très rationnelle, qui serait Dieu a créé le monde, pour arriver à une réflexion très personnelle, qui est Dieu donne la vie. Et j'en suis porteur, et je la transmets. Pas autant que la femme le fait, mais j'y suis pour quelque chose aussi.
J'ai aimé justement ce passage où je vous avais dit que le nom d'Élohim s'effaçait au moment justement de l'enfantement, et j'ai trouvé ça très beau, peut-être cet aspect de féminin justement, de douceur et d'amour et de compassion. Et je pense que par les moments où l'on peut lire des choses plus dures concernant des lois qui sont données, des obligations qui sont faites, il y a un côté de Dieu comme un père. Le côté du masculin, du paternel, qui va obliger, qui va prendre la direction pour guider, mais en même temps pour laisser libre, mais apprendre. Et puis il y a effectivement un autre aspect qui est dans la douceur et dans la compassion, et qui est le côté que l'on pourrait peut-être dire du féminin de Dieu, et aussi du côté caché, puisque c'est ce que l'on dit, que ce féminin est caché. Il y a de la part de Gérard, qui n'étant pas là ce soir, a dit « Si tu peux dire cela quand même pour moi, je serai un petit peu parmi vous, notre ami talmudiste. » Ayant trouvé une réflexion de Lucien Israël, pourquoi Dieu se limiterait-il à un seul sexe? Voilà.
Et nous savons pertinemment que qui que nous soyons, nous avons une part de masculin pour les femmes en elles et de féminin pour les hommes en eux. Donc nous aussi, nous sommes et il ou elle, et puis nous sommes un peu plus de l'un que de l'autre, mais Dieu, il est.
Je ne veux pas garder le micro, mais peut-être pour faire rebondir aussi des amis ici qui sont tournés plus vers la psychanalyse ou vers dans ce domaine-là. Ce que j'aime dans le tétragramme et cette perspective, comme vous nous l'avez bien décrite, cette capacité, vous avez dit, tu verras ce qui se passe après moi. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire dans la mesure où existe agis, fais, vis, et tu verras. Je pense qu'il nous donne un message là d'être vraiment pleinement, et ça touche un petit peu le sens de qui je suis, où je vais. Certains diraient qu'est-ce que je mange et à quelle heure ou à quelle heure mangeons-nous. Mais pour être plus sérieux, oui, c'est déjà là ce questionnement. Je le pense. Est-ce qu'il y a des amis justement qui ont envie de rebondir là-dessus? Je crois que une qui nous parle beaucoup de cela, c'est Annick de Soussenel aussi, n'est-ce pas? Bon, si personne ne rebondit, je ne garde pas le micro. Si, ah voilà. Vous voulez?
Alors, bonsoir, c'est la première fois que je vous écoute, je ne vous connaissais pas et on m'a dit beaucoup de bien de vous et j'étais très surprise du titre. Quand j'ai vu ce titre, je me suis dit mais c'est bizarre, c'est étrange qu'un homme de qui on me parle avec tant de valeur ait choisi ce titre pour parler de Dieu, parce que je trouvais ça pour moi incohérent. Et je suis contente quand vous dites j'ai fait le choix de d'enlever ce titre, parce qu'en effet pour moi Dieu ça ne peut être ni il ni elle, c'est insaisissable, c'est l'intemporel comme vous l'avez bien dit, et cela me fait plaisir que vous ayez osé être dans cette transformation, affirmer cette transformation dans laquelle vous parlez, dans laquelle nous sommes tout le temps heureusement. Et je voulais dire que ce que j'aime bien c'est le côté de l'absurdité qui fait alliance avec la profondeur, avec la légèreté et avec plein d'autres choses que je ne peux pas nommer parce que je ne suis qu'une humaine et qui est limitée avec les mots. Et alors voilà, je laisse le silence maintenant.
Oui, mais moi, ce sont la même chose. Donc, moi, je pense, comme j'ai dû le dire la dernière fois, au tableau de Rembrandt, le retour du fils prodigue. Donc, le père qui reçoit son fils qui est à genoux devant lui et qui, dans le tableau de Rembrandt, a représenté le père qui, bien sûr, représente Dieu, avec une main de femme et une main d'homme. Et ça... C'est très net.
En fait, nous usons de catégories, et lorsque nous voulons parler d'un être qui est hors catégorie, nous sommes totalement démunis. Et c'est pour ça que je parlais aussi, j'ai donné les textes de la Kabbale où les uns parlent de Haïn, donc l'inexistence, et les autres parlent de Ein Sof, le sans fin, parce que dans le fond, ces deux textes montraient bien l'incapacité que nous avons et quelquefois les extrêmes que nous utilisons dans notre langage pour essayer de parler de Dieu. Mais il n'est pas le seul devant lesquels nous avons un abîme de méconnaissance, parce que si nous regardons notre existence, nous ressentons des choses et nous avons énormément de difficultés à les exprimer, à les rationaliser, à les décrire. Mais c'est le propre de l'humain, et c'est le propre de l'humain, Dieu merci, d'une certaine façon, si je peux m'exprimer ainsi, parce que ça ouvre à toutes les possibilités. Et qu'en fait, cette incapacité est une richesse, et non pas un carcan ou une finitude. Bien sûr que dans le monde de la réalité, dans le monde, disons, de la rationalité, s'il y a incapacité, et bien dans le fond, cette incapacité montre notre limite. Mais lorsque nous parlons de Dieu ou lorsque nous faisons de la poésie, alors cette incapacité devient à ce moment-là un moteur, devient une source d'inspiration, génère en nous ce que la rationalité ne peut pas générer. Et c'est ce qu'il y a d'absolument extraordinaire. Ces grands penseurs, on peut en prendre de multiples, mais disons dans la tradition juive, Maïmonide, c'était en même temps de doux rêveurs. Parce que si nous lisons ces textes et nous essayons de les suivre pas à pas, ils nous entraînent dans des contrées totalement ignorées au préalable et nous permettent, je ne dirais pas de rêver, mais peut-être de rentrer totalement en nous et de ressentir en nous ce qu'il y a de plus profond. Et c'est ce qui est extraordinaire. Ou les psaumes ou certaines prières qui peuvent, lorsqu'on les lit comme ça, de façon littérale, être relativement plates. Mais lorsqu'elles sont dites dans un certain cadre, et je ne parle pas de cadre géographique, mais aussi d'un cadre de l'esprit, nous renvoie en quelque sorte à des profondeurs qui sont au préalable inconnues. Et c'est la beauté de la chose. Alors évidemment, on peut dire que ce qui est inconnu n'existe pas, mais comme on sait pertinemment que l'existence n'est qu'une limite, il y a beaucoup de choses au-delà de cette existence, et nous avons, les humains ont cette capacité extraordinaire qui est tout d'un coup de générer des idées, des événements, des sentiments, des gestes qui sont totalement inconnus avant eux, et donc c'est une source de création.
Ce que je voudrais dire, c'est que cette connaissance de Dieu, si nous voyons la Bible, c'est une connaissance de relation, dans l'alliance. Voilà. Dieu n'est pas objet d'étude, parce que si quelqu'un est objet, donc nous le mettons en dehors de nous. Je dirais presque que étudier quelqu'un comme un objet, c'est le mépriser un peu. Voilà. Dieu, nous le connaissons dans une relation. Et là, je pense en particulier que tout le mouvement Alliance, c'est Dieu avec l'homme et l'homme avec Dieu, sans savoir encore qui il est. Mais cependant, je vis avec lui une relation en profondeur. Si on prend par exemple Abraham, parle à Dieu comme un ami à un ami. Voilà. Je crois que cette connaissance se fait dans la relation. Et ça, c'est important. D'ailleurs, je repense moi à l'Évangile, quand Jésus demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Ben, t'es Jean-Baptiste et tout ça, quoi. Ensuite, il demande, « Et vous, qui dites-vous que je suis ? Pour vous, qui suis-je ?» Ça, c'est important. Il ne dit pas « Qui suis-je ?» Il dit « Pour vous. » Si quelqu'un me demande « Qui suis-je ?» Voilà. Bon, je peux reprendre ma carte d'identité. Qui es-tu ? Je m'appelle Raymond Barcellini, à tel endroit. Mais si quelqu'un me demande que suis-je pour toi ? Il n'y a que moi qui puisse répondre. Là, je suis dans une relation. Voilà. Et je pense que c'est... D'ailleurs, je pense que c'est toute la pensée biblique que la vérité se fait dans une relation. Hein, et dans une relation vivante. Alors, il me semble que là, ce qui est important, c'est de grandir dans cette connaissance de Dieu qui se fait au cœur d'une relation. Et si on prend, par exemple, comment dans la Bible... Le peuple d'Israël fait la connaissance de Dieu et découvre Dieu, c'est justement dans une alliance. C'est parce que Dieu parle à l'homme et à Israël de sa vie d'homme qu'ensuite Israël s'éveille de plus en plus à Dieu. Ça commence d'ailleurs avec Moïse, par Dieu qui éveille Moïse à la situation de ses frères. J'ai entendu le cri de mon peuple. C'est à partir de là que va se vers cette relation de connaissance. Alors là, il me semble que c'est une expérience profonde de vie. Non pas l'expérimental, objectif ou rationnel, hein, mais l'expérience profonde de vie dans une relation. Voilà ce que je pensais.
Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, si on lit la Bible, elle n'est qu'un long dialogue. Et la Torah en est le parfait exemple. Et l'Éternel dit à Moïse, deux points, ouvrez les guillemets, en disant, et voici ce qu'il lui a dit de dire. Enfin, ce qu'il lui a dit en disant. Il y a cette ouverture à la parole. Et puis, il y a il y a la parole, et puis en même temps, souvent, le texte fait référence au visage. Être en face de, c'est en hébreu, voir le visage. Donc la parole est une chose, et le visage participe à ce dialogue, même si ce visage est invisible. On dit de Moïse, il a été le plus grand prophète parce qu'il a vu Dieu panim el panim, face à face. Et donc, il y a comme une alliance, pour reprendre le terme que vous avez utilisé, il y a comme une alliance entre le dire et puis ce qui est au-delà du dire, c'est-à-dire le visage ce qu'exprime le visage en disant. Et puis il y a quand même quelque chose de frappant parce que bon, tout à l'heure je vous ai dit que pour Dieu on pouvait dire ceci puis on pouvait dire le contraire de ceci. Il est intéressant de constater que lorsque l'on parle de l'alliance, en hébreu on dit que sceller une alliance. Alors sceller une alliance, ça veut dire véritablement joindre deux éléments de façon extrêmement solide, sûre. Ça c'est le français. En hébreu on dit lichrot brit, c'est-à-dire séparer une alliance. Séparer une alliance, c'est-à-dire que les deux parties de l'alliance ont une certaine indépendance l'un vis-à-vis de l'autre. Pour que cette alliance soit un impact positif, il faut que les deux parties de cette alliance restent distinctes. Et c'est pour ça que quand on scelle une alliance en français, on rompt une alliance en hébreu. Non pas dans le sens négatif que l'alliance est brisée, mais dans le sens positif que cette alliance qui lie les deux, lie deux êtres ou deux participants qui chacun reste ce qu'il est sans être absorbé par l'autre.
Ça c'est l'idéal du couple et c'est peut-être ce que Dieu justement a voulu.
Oui, oui, oui.
Ce que vous dites en tout cas.
D'abord, sur ce que vous venez de dire, là, je me suis personnellement interrogé justement sur cette formule « couper une alliance ». Parce que, par exemple, en grec, ce qu'on appelait le symbole, on cassait les deux, un objet en deux, ce qui était un signe de l'alliance. Et je me demandais si ça pouvait pas être quelque chose d'analogue, ou alors couper la gorge d'un animal, un sacrifice. Est-ce que c'est pas ça historiquement le... Mais c'est une question que je pose, je n'ai aucun élément de réponse.
Je crois que la première partie de votre intervention, oui, c'est exactement cela. Parce qu'avant, c'était soit de l'argile ou de la pierre ou un support,
oui,
sur lequel l'alliance était écrite, elle était brisée, pour pouvoir identifier l'autre élément de l'alliance.
Voilà.
Pour D'accord. être sûr que c'était bien de cette alliance dont on parlait. Mais ce qui est intéressant, c'est au-delà, disons,
oui,
de cet aspect historique qui est très certainement le fondement,
le sens littéral, on pourrait dire,
tout à fait. On peut aujourd'hui dire que, enfin ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'alliance ne peut se faire qu'entre deux parties indépendantes l'une de l'autre, sinon il y a absorption de l'autre par l'un.
D'accord. Oui, si je peux encore.
Oui, c'est sûr.
Oui, j'espère ne prendre la parole à personne, mais parce que vous avez quand même opposé, pour revenir quand même à l'opposition masculin-féminin, vous avez quand même opposé un dieu de rigueur à un dieu de miséricorde, en gros. Et là, je ne sais pas si c'est moi qui interprète ensuite, mais la rigueur étant plutôt du côté masculin et la compassion du côté féminin. Bon, probablement pas, c'est plus réciproque que ça.
Il n'y a pas d'opposition, il y a complémentarité.
Mais je voulais... J'ai pas fini la question.
Allez-y, c'est pour la réponse.
Oui, je voulais en profiter pour élargir le domaine à l'islam, parce que il y a aussi cette opposition entre Dieu de rigueur et Dieu de compassion, alors qui s'exprime par un mot, ou plutôt deux mots, qui sont sans doute les épithètes d'Allah les plus souvent prononcées, c'est-à-dire Rahman et Rahim. L'origine de ce mot, qui est la même en hébreu, c'est la matrice Rahim. Donc il y a bien, alors, très nettement dans le dieu de l'islam, une composante très importante, puisqu'encore une fois, c'est la formule, la basmala qui est le plus employée, non seulement pour introduire à la récitation de chaque sourate, mais pour initier toutes les actions de la vie quotidienne. Il y a un équilibre qui est ainsi créé entre donc la féminité de Dieu, entre guillemets, et sa masculinité. Et ce que je voudrais savoir, c'est si dans la Bible, il y a ce rapprochement entre la matrice, cette image, à propos du Dieu des Juifs, ce que je ne sais pas.
Alors, je ne pense pas qu'il y ait opposition entre telle qualité de Dieu et telle autre qualité de Dieu. Il y a, disons, à notre... Selon notre vision, il y a complémentarité. Oui, oui. Et effectivement, Dieu est El Rahum, qui est un Dieu de compassion, et Rechem, c'est la matrice. Donc c'est exactement l'arabe, et je ne veux pas dire reprend l'hébreu, mais il est bien évident que les auteurs du Coran avait une connaissance de ce que disait le christianisme et de ce que disait le judaïsme. Et comme il y a une similitude entre l'arabe et l'hébreu, il est bien évident que El Rahman, c'est El Rahum. Et on a exactement la même origine du terme. C'est la matrice féminine. Mais encore une fois, je ne pense pas que l'on puisse attribuer de la mansuétude et de la compassion à la femme et de donner que des caractères guerriers à l'homme. Parce que nous avons tous des composantes de l'autre en nous et parfois c'est une composante de rigueur qui s'exprime et parfois c'est une composante de compassion qui s'exprime chez l'être humain également. Et puisque vous avez parlé de rencontres et d'alliance, il est bien évident que nous ne pouvons parler de Dieu que par rapport à ce que nous connaissons, à la langue que nous connaissons, et à la langue qui nous sert de véhicule pour exprimer nos pensées, et que il est bien évident qu'en hébreu, il peut y avoir des sensibilités qui s'exprimeraient infuse en quelque sorte par la langue elle-même, que l'on ne retrouve pas lorsque on exprime les mêmes idées ou les termes dans une autre langue. Par exemple, le terme miséricorde, dans notre sidour, il a été totalement éliminé parce que j'ai fait ce sidour. Enfin, nous avons fait ce sidour à trois rabbins et l'une des rabbins était Pauline Bebb. Et elle m'a dit, je ne veux pas voir ce terme. Miséricorde, c'est misère. Et je ne veux pas. Alors si vous regardez, si vous aviez un fichier, vous faisiez une recherche, misère exclue. Et c'est quand même curieux qu'en français, la miséricorde, disons la relation de ce terme avec misère, se fait immanquablement. Peut-être, j'ai pas regardé d'ailleurs l'étymologie. Oui, et c'est terrible dans le fond d'une certaine façon. Ou c'est le français.
Je voulais réagir. Merci. Sur Miséricorde, je sens que le prince est libre.
Je croyais que Miséricorde, c'était lié justement au sein, à la, aux entrailles, à ce qu'on porte en soi. Hein, voilà. Ce que je parlais tout à l'heure.
C'est le Rechem en hébreu.
Ram, Ramin, hein,
c'est ça. Oui, Ramin, oui.
Voilà. Donc, ça veut dire qu'en effet, si on regarde les images de Dieu dans la Bible, enfin, je ne sais pas si vous, mais j'en vois trois hein, dans l'histoire. C'est que d'abord, il y a alliance, hein, et que cette alliance, on comparait à des épousailles. Dieu est présenté comme l'époux d'Israël. Voilà. Donc, engagé avec Israël, avec toute sa vie, il y a ce lien entre Israël, l'image de l'épouse, et Dieu, l'époux. Hein, je crois que je ne me trompe pas. Non, hein, voilà. C'est donc... D'ailleurs, le mot d'époux revient souvent, puisque même aussi dans les évangiles, le Christ se compare à l'époux. Dieu, c'est l'époux. Puis ensuite, il y a le fait que Israël, bien, il se tourne vers les idoles, etc. Voilà. Alors,
Vous
n'en parlez pas. Hein? C'est vrai? Donc ensuite, Dieu l'accueille tout continuellement. Voilà. Alors c'est là où se pose la question, quel est cet époux? Hein? Son époux s'en va une fois, deux fois, trois fois sa femme, et 50 fois, il l'accueille continuellement. Voilà. Alors c'est là où naît. Mais c'est des métaphores, voilà. C'est là où naît cette pensée de Dieu mère, la maternité de Dieu. Isaïe dira d'ailleurs, quand bien même une mère oubliait-elle son enfant, moi je n'oublierai pas. Je t'ai inscrit sur la peau de ma main. Donc tu fais partie de mon être. C'est-à-dire, je ne peux pas t'oublier, parce qu'une mère qui porte son enfant, elle le porte, elle est liée à lui. C'est bien que ce lien de l'alliance passe de l'image de l'époux à l'image de la mère, de ce lien qui fait partie de l'être. C'est des métaphores aussi. Hein. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'enfant prodigue. Le père, dans la parabole, il est à la fois père et mère. Il ne faut pas qu'on oublie que lorsque l'enfant revient, le terme grec, c'est « splankinzein », il eut les entrailles remuées. C'est-à-dire que son fils, il le réenfante. Il le réenfante comme une mère. Pas qu'on oublie ça. Hein. D'ailleurs, Rembrandt le représente sur son sein. Et puis ensuite, il y a l'image du Dieu Père qui va venir. Mais très tard. Hein. Je crois que je ne me trompe pas. Parce qu'avant, on n'appelait pas Dieu Père dans la Bible. C'était le Dieu de nos pères. Hein. On appelait Dieu Père quand... Israël a pris conscience, en exil en particulier, on met les événements sur Dieu, mais là, il y a ma responsabilité aussi. Donc, convertis-nous, Dieu de notre Père, dans Isaïe. Quand il dit ça, il dit convertis-nous, c'est-à-dire le Père, source de ma responsabilité. Voilà. Donc, on ne prend pas Père simplement comme le géniteur, mais celui qui m'éveille à ma responsabilité. Alors, je pense qu'il y a ces trois images... Mais ce sont des images qui sont des métaphores, hein, et qu'on exprime ça à travers l'expérience humaine, qui est à la fois féminine et masculine. Et l'homme qui vit son expérience avec Dieu, ben, vit une expérience au cœur de toute la réalité de l'humanité qui est masculine et féminine. Homme et femme, il le fit.
Il y a quand même un vocable qui intervient très tôt dans les livres bibliques et qui est que Dieu parle du peuple d'Israël comme Bené Israël, comme les fils d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a cette relation du père, mais le père vers le fils, qui est une relation qui est, je dirais pas première, parce que il est évident que les textes parlent pour leur auteur. Mais que cette relation filiale ou paternelle, ça dépend de quel côté on se place, elle est essentielle dans la tradition juive. Essentielle. Et Dieu, en, disons, sous son aspect féminin, apparaît de façon postérieure, je pense, par rapport à son aspect paternel. Mais puisque Dieu peut être il ou elle,
Est-ce que le fait que nous sommes appelés Bnei Israël ne veut-il pas dire, dans le fond, que il y a la rigueur du Père, et puis il y a la compassion de la Mère, et les deux vont ensemble?
Oui, à propos du côté paternel, il y avait quelque chose que j'avais lu dans les commentaires de Hirsch sur la Torah, où il parlait du mot Adonai, qui serait tiré du mot, qui veut dire donc maître au pluriel, effectivement, et il faisait le rapprochement entre Adonai et Éden, pas le Éden paradis, mais le Éden socle, soutien. Et en fait, le Adonai, le maître, on pourrait presque dire le maître d'école, c'est celui qui soutient son élève. Et je trouvais que c'était intéressant à dire.
Merci.
Patrick est le spécialiste de ces jeux de mots. Non,
mais c'est... Très... Vous me direz où vous l'avez trouvé ?
Hirsch.
Oui.
Moi, je voulais simplement, et je m'étonne qu'on n'ait encore pas à citer, puisqu'on a fait beaucoup de références à la Genèse. Moi, je ne suis pas un grand familier des Écritures, mais, sauf erreur de ma part, dans la Genèse, il est bien dit, Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il le créa. Donc, si l'image de Dieu... Oui, il est créé. Donc, si l'image de Dieu est homme et femme, quelque part, il y a en Dieu une dualité. Hein? Moi, je ne sais pas, mais je n'en sors pas de cette problématique.
Oui, mais le mot image, alors c'est très intéressant parce que le texte. Pardon.
Ce texte est très intéressant parce qu'il est traduit en français par image, mais tselem, c'est aussi une ombre portée. C'est aussi un reflet. Et c'est pas une image. Et c'est quand même autre chose, le reflet. Non, parce que l'image peut être indépendante de son auteur, le reflet n'est pas indépendant. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, dans le fond, j'aurais pu citer ce verset. Mais je vais le rajouter à mon texte. Je vous remercie. Mais je dirais que ce n'est pas de moi.
Oui, je voulais parler de ce morceau en disant que pendant longtemps, j'avais vu ça d'une manière intellectuelle. Voilà, Adam Kadmon, le premier Adam, est androgyne. Et en fait, on apprend dans toutes les lectures qu'on lit actuellement qu'on a beaucoup évolué sur les sexes. Et on sait maintenant qu'il y a des plantes qui sont mâles et femelles. Le bas de la plante est mâle et le haut avec les fleurs est femelle. Mais il y a des poissons qui pendant une partie de leur vie sont mâles et quand ils atteignent une certaine maturité, ils deviennent femelles. Et en se reproduisant comme des mâles pendant la première partie de leur vie et comme des femelles pendant l'autre partie. Et on sait maintenant récemment que même nos embryons, nos premières cellules à la naissance, qu'elles soient XX, donc des futures femmes, ou XY, des futurs hommes, pendant plusieurs semaines, ont les organes masculins et féminins. Et c'est petit à petit que le choix va se faire et que les organes féminins vont être détruits quand ça va donner un petit mâle, et les organes masculins détruits quand ça va donner une petite femelle. Donc ça va, c'est comme le chat de Schrödinger. Tant qu'on n'a pas regardé, on ne sait pas encore si ça va être un homme ou une femme. Donc c'est pas gênant de se poser la question et de se dire Dieu et il ou elle, ça n'est pas important, puisque de toute façon, il ne faut pas l'enfermer dans un nom, ou dans une forme.
Ce sont des catégories humaines. Oui,
c'est purement humain.
Merci. Trois choses. D'abord, ce qui vient d'être dit au sujet du reflet, ça a été souligné par Delphine Horviller dans son dernier livre. Donc c'est... La deuxième chose, c'est que... alors ça a été dit à trois reprises, par toi, Eliane, ensuite par le père Barzani, et vous l'avez souligné aussi, la notion de la dimension maternelle. Il y avait deux... Je parle de la dimension maternelle, en l'occurrence, avait été particulièrement soulignée par le père Philippe Dautet quand il était venu, prêtre orthodoxe, qui avait appelé notre attention sur deux textes d'Ésaïe. Dieu s'émeut pour l'homme comme une mère pour ses enfants. Ésaïe parle des entrailles de miséricorde, ça a été dit par le père Barcellini. C'est Ésaïe 63,15. Et un autre passage d'Ésaïe met l'accent sur la dimension maternelle. Vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Ésaïe 66,12. Et puis quant à la rigueur, Marc-Alain Wachnin dit « Attention à ne pas avoir que le côté rigoriste, à ne pas avoir d'abord le côté rigoriste. La rigueur, il faut voir surtout la dimension, quand on dit un juge doit juger avec rigueur, c'est avec l'esprit de justesse et de justice. La rigueur, elle n'a donc pas un côté d'abord négatif, mais un côté judicieux. Comment ?
Équité.
Équité, absolument. »
Dans la chrétienté orthodoxe, le signe de croix ne se fait pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. Parce que la droite, c'est la rigueur, et la gauche, c'est la compassion et la miséricorde. Parce que la compassion seule, on ne pourrait pas vivre, et la rigueur seule, on ne pourrait pas vivre. Donc il est important d'avoir ces deux pôles, et on a cela dans la gestuelle.
Merci. Oui, nos amis orthodoxes bien présentes. Réaction.
Alors,
tout à l'heure, ça
marchait.
Il y a des nœuds. Attention, j'étrangle pas quelqu'un.
Ah non.
Alors, je vais être peut-être un peu provocatrice, mais j'avais envie de dire que je suis un petit peu agacée par l'aspect de sacralisation que l'on... Quand on parle de la femme, du féminin, ce côté de sacralisation, qui pour moi, dire la femme c'est sacré, ou le féminin sacré plutôt, hein, c'est une manière de vouloir mettre la femme au-dessus, et donc aussi au-dessous. Je dirais que c'est à notre désavantage en tant que femme, mais aussi au désavantage des hommes, évidemment. Voilà, je voulais juste dire cela. Et puis aussi par rapport à la dualité, ce dont parlait monsieur tout à l'heure, je ne sais pas si c'est vous, il me semble que nous avons toujours tendance, nous les Occidentaux, à parler de la dualité, à créer de la dualité, alors que c'est la dualité, elle existe parce que justement, il existe la complétude. Que l'alliance, et comme vous disiez tout à l'heure, il faut qu'elle soit cassée pour qu'il y ait alliance. C'est un peu la même chose. Voilà.
J'ai la profonde conviction que le jour où on ne mettra pas la femme sur un piédestal, mais un petit peu de côté, il y aura égalité entre l'homme et la femme. J'avais assisté un jour à un très beau discours d'un rabbin que je ne mentionnerai pas, qui est connu par beaucoup de personnes, et qui avait encensé la femme, mais qui est un rabbin traditionnaliste. Et une femme est venue... Vous avez vu, c'est un libéral. J'ai dit, attention. Plus on est laudateur, plus on... sans le vouloir, ou en le voulant, consciemment ou inconsciemment, plus on est laudateur, c'est pour ça que j'ai eu peur de vos premières paroles, plus on, je ne veux pas dire qu'on rabaisse, mais on écarte. Et c'est vrai que dans la société, quand on ne remarquera plus que telle personne est une femme, alors que l'on était habitué que le poste qu'elle occupe était occupé avant par des hommes, quand on cessera cela, eh bien on aura fait un grand pas en avant je ne veux pas dire dans l'égalité des sexes, parce que ça ne veut rien dire non plus. Ça n'existe pas, vous avez raison. Dans l'équité des êtres humains les uns envers les autres. Et c'est pour ça que le texte est intéressant lorsqu'il dit Betzelem Elohim, il les créa, bara otam, il les créa, pas il le créa. C'est-à-dire que chacun est le complément de l'autre. Sans être. Et il n'y a pas de problème d'égalité, d'inégalité, on est le complément. C'est-à-dire que. Qui suis-je sans l'autre? Et qui l'autre est-il sans moi? C'est en fait ça. Mais ça, on arrive dans un autre domaine.
Si j'ai bien compris, vous avez presque dit pareil pour Dieu. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas là, à la limite, Dieu n'existe pas. Mais si. Non, parce que le fait.
Il faut reprendre Maïmonide. Il est en dehors de nous, mais d'une certaine façon, il doit avoir du plaisir à ce que nous le reconnaissions. Non. Ah, attention, parce qu'à ce moment-là, vous rendez Dieu dépendant de vous-même. En le nommant, nous le faisons en quelque sorte entrer dans notre monde, pour nous, mais pas pour lui. Ou elle.
Oui, c'est plus juste comme cela.
Merci Eliane. Je voudrais rebondir sur ce que dit Eliane, parce que ça me turlupine depuis tout à l'heure. Je viens ici vraiment comme néophyte, plus comme une découvreuse et avec simplement un cœur ouvert. Et lorsqu'on vous avez cité Arthur Green, et Eliane vient de parler de ça, et qui dit « Le témoignage que Dieu est un requiert la présence d'un autre, or à côté de Dieu ne peut pas avoir d'autre que Dieu. Et Dieu aurait donc besoin de nous pour exister, comme nous avons besoin de lui, peut-être pour exister. » Alors l'idée, ce serait peut-être, est-ce que Dieu est terriblement humain et a tant besoin de nous pour exister lui-même? Et c'est pourquoi il est tant chanté et prié dans le monde entier, à travers toutes les religions. C'est une question un peu provocatrice.
Arthur Green a une pensée assez complexe, mais je suis à peu près certain que dans son esprit, lorsqu'il dit que Dieu a besoin de nous pour être reconnu, c'est plutôt nous qui parlons de lui que lui qui parle de nous. C'est-à-dire que il n'a pas besoin de nous, ce n'est pas pour lui un besoin. Le problème qui se pose est le suivant. Si Dieu est tout, T-O-U-T, il n'avait pas besoin de créer l'univers. Et comme je ne crois pas au panthéisme total, donc je ne crois pas que nous sommes une parcelle de lui. Je ne me souviens plus quel est l'auteur, mais qui a dit... Dieu a voulu créer le monde pour voir ce qu'il était capable de faire. C'est un clin d'œil. Il n'a pas besoin de nous. Mais à partir du moment où il a créé l'univers, il a introduit un élément qui n'est pas lui. Puisque cet univers est de matière, encore que. Il y a tellement de vide dans la matière, même dans notre matière, même ici, si on regarde un infiniment petit, que donc cette matière qui nous apparaît comme étant du solide est en fait du vide un peu habité. À partir du moment où le monde est créé, il y a en quelque sorte, je vais utiliser des termes grossiers, hein, il y a face à Dieu un élément qui existe et qui n'est pas lui. Et à partir de ce moment-là, comme nous faisons partie de cet élément qui n'est pas lui, eh bien peut-être engage-t-il le dialogue avec nous, où nous pouvons penser qu'il y a un dialogue entre lui et nous, et nous et lui. Est-ce que ce dialogue lui fait plaisir? Je ne répondrai pas à cette question parce que je ne suis pas lui, ou elle, et donc je ne peux pas le savoir. Mais peut-être cela influe, non, ne peut pas influer sur lui, mais du moins c'est notre réponse à nous qui ne sommes pas lui ou elle à la présence que nous pensons que lui ou elle est. Mais à partir du moment où un autre élément existe, et c'est toute la problématique de l'alliance également, à partir d'un moment où un autre élément existe par rapport à lui, on ne peut pas penser, ou il est difficile de penser qu'il ne puisse y avoir une relation entre Dieu et cet élément qui n'est pas lui, et qui est sa propre création. Mais qu'est-ce que cela veut dire, la miséricorde divine, ou la compassion divine, ou la rigueur divine? Je ne sais pas, dans le fond. La seule chose, c'est que je ressens parfois une certaine rigueur de sa part, par des événements que je vis. Quand je dis « je », c'est pas moi, c'est l'humain. Et que parfois je ressens un flot d'amour, et que j'estime, comme il est à la source de l'existence de tout, qu'il en est également la source. Des deux côtés. Que ce soit dans la rigueur, ou que ce soit dans l'amour. Ou du moins dans ce qui m'apparaît être fruit de la rigueur, ou conséquence de la rigueur, et ce qui m'apparaît être conséquence de l'amour.
Je crois qu'il est tard. Une dernière, parce que... Alors...
Attends, on entend... Micro, parce qu'on n'entend rien.
Excusez-moi, je suis interpellée quand vous dites que nous n'influons pas sur Dieu. Enfin, il me semble que si, puisque il nous a fait pour que nous participions à la vie, à la création, donc en vivant et en nous transformant, grâce justement à cette dimension divine qui est en nous, nous nous transformons, donc nous le transformons aussi, et il nous transforme encore. Et donc il y a quand même, en toute humilité, me semble-t-il, et comme disait Wapnin, ce peut-être, qui fait que nous sommes dans le non-réalisé, nous allons vers le non-réalisé pour le réaliser, que donc nous influons sur lui comme il influe, et que c'est une interactivité infinie et permanente. Voilà, c'est juste un questionnement.
Si Dieu est tout ce que nous disons qu'il est, il est difficile de penser qu'il puisse être influençable ou influencé par un élément extérieur. Je ne sais pas, mais je prétends, voilà, et peut-être là je m'avance un peu, la tradition juive dit Dieu sait tout. Son savoir est total. Alors comment puis-je mettre en accord le savoir total de Dieu et le fait que il se passe des événements et pas d'autres? Peut-être parce qu'il a envisagé l'infini des hypothèses. et que cet infini des hypothèses, c'est nous qui les réalisons, mais partiellement. Nous réalisons quelques-unes de ces hypothèses, mais pas l'infini des hypothèses. Dans ce sens-là, nous faisons des choix. Encore là, il faudrait savoir si on a la capacité de choisir. Moi, j'aime bien la position de Spinoza qui dit que, dans le fond, il y a de telles causalités que nous allons toujours dans la direction que ces causalités nous font, vers quoi ces causalités nous font aller, et que notre seule capacité de choix réside dans l'intention et la réalisation et la prise de conscience de ce que nous faisons et de ce que nous sommes. Dieu a peut-être pensé toutes les possibilités, toutes les hypothèses. Et nous réalisons, dans cet ensemble d'hypothèses, nous réalisons quelques hypothèses. Et dans ce sens-là, nous ne le faisons pas changer lui, donc nous ne l'influençons pas, nous ne l'influençons, oui, son pas. Nous n'avons pas d'influence sur lui, mais lui a prévu toutes les hypothèses qui pourraient être notre vie et la vie de chacun d'entre nous et l'ensemble de l'univers. Comme il a un savoir total, rien ne peut se réaliser qu'il n'ait pensé, c'est ce que disait tout à l'heure également Maïmonide, rien ne peut se réaliser qu'il n'ait pensé, mais il nous apparaît, nous, que lorsque nous réalisons quelque chose, nous avons le sentiment d'avoir peut-être une influence sur lui, mais dans le fond, cette influence, elle est plus sur nous que sur lui, parce que lui sait tout, et il nous propose toutes les options. Et par les options que nous choisissons, nous allons aller dans une direction ou dans une autre. Mais là, ça aussi, il l'a prévu.
Merci. Merci infiniment, Rabbi François. Merci beaucoup. Je crois qu'on pourrait encore longuement aller là-dedans parce que nous, on aurait eu encore à dire des choses et à propos de la physique quantique et à propos de ce que vous êtes en train de dire.
Évidemment, ça peut nous sembler tout à fait curieux, mais par exemple, si la Bible dit vrai, et je pense que dans certains domaines elle le dit, ou si la pensée religieuse, qu'elle soit musulmane, chrétienne, juive et autre, dit vrai, il doit y avoir un moment où il va y avoir ce que l'on appelle dans notre langage les temps messianiques. J'y crois profondément. Ceci étant pour nous, dans le fond, c'est une blessure que de savoir que c'est pas demain. Parce que nous sommes. Et si c'est pas demain, ça sera après-demain. Parce que nous sommes dans le temps qui court. Mais lui, il est intemporel. Donc pour lui, que ce soit demain, après-demain, hier ou. Ne joue aucun rôle. Pour nous, c'est colossal.
Merci. C'est une super, très belle façon de finir. On vous laisse repartir, Rabbi François. Je ferai mes petites annonces après, mais de dire au revoir, parce que je crois que non, vous voulez... Ah bon, finalement, alors. Mais c'est rapide. Mes petites annonces sont rapides. Mais je ne veux pas vous retenir, parce qu'il y a la route à faire. Alors, tout simplement, si vous voulez prendre vos agendas pour dimanche, notre ami Gérard Manant, à Novelle, sous l'église, il y a une des salles qui sera libre pour que nous soyons à écouter sa conférence de 16h à 18h.